À la présentation du journal, Bibi Moukonkolé.
Les titres de cette édition: incursion hier des Maïmaï Kata Katanga au village Katendeji dans le territoire de Pueto. Ces miliciens ont pillé et incendié des maisons. Des précisions sous peu dans ce journal. Grève des transporteurs aériens à Bukavu. Les responsables d'une dizaine d'agences de fret aériennes contestent une taxe qui, selon eux, a été supprimée par le ministère de Transport, mais qui continue à être perçue par la DPMR. Nous parlerons également de la persistance des difficultés de la traversée entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Jacques-Yves Molima nous présentera notamment les conséquences économiques entre les deux pays. Bonsoir. Commençons ce journal par cette incursion menée hier par les Maïmaï Kata Katanga au village Katendeji, à 45 km de la cité de Kilwa, dans le territoire de Pueto. Selon des sources concordantes à Kilwa, ces miliciens ont pillé et incendié les maisons, ce qui a provoqué un mouvement de population. Certains habitants ont trouvé refuge dans la brousse et d'autres dans des villages environnants. Le chef du groupement Kiaka déplore la recrudescence de l'insécurité causée par les Maïmaï dans cette partie du secteur Moero. Madeleine Waila nous fait le point.
Plusieurs sources indiquent que les Maïmaï, une dizaine au total, en provenance du parc Kundelungu, se sont introduits dans le village Katendeji, situé à une vingtaine de kilomètres de Kilwa, sur l'axe Kilwa-Dikoulouchi. Ils ont tiré plusieurs coups de feu qui ont créé la panique dans le village. Ils ont également pillé et incendié quelques maisons. Ces opérations ont provoqué le mouvement des habitants de Katendeji. Certains se sont dirigés vers les villages environnants, d'autres en brousse. Le chef du groupement Kiaka, qui contrôle Katendeji, précise qu'après le départ des miliciens, les militaires FARDC sont arrivés dans ce village. Il affirme aussi que, pour le moment, le village est encore vide. Le chef de groupement déplore aussi le fait que les incursions soient récurrentes dans son entité. Signalons que d'autres incursions ont été signalées le 29 novembre dernier. Les Maïmaï ont fait irruption dans le village Kawesi et Luizi, où ils ont incendié les maisons. Le Bumbashi, Madame Waila, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le gouvernement de la province est à Beni en tournée de sensibilisation de la population de ce territoire pour qu'elle s'approprie les efforts du gouvernement et de la MONUSCO dans la sécurisation de cette contrée. Par ailleurs, en territoire de Rutshuru, des tensions entre les communautés Nande et Hutu sont signalées depuis quelques mois dans le groupement Binza. Les services de sécurité attestent même que des armes à feu ainsi que des armes blanches circulent déjà parmi les membres de ces deux communautés. Le gouvernement du Nord Kivu dit qu'il a informé de la situation. Il souligne qu'un dialogue social pour permettre à ces deux communautés de se parler est même prévu dans le Binza par le Baraza Lawazé avec l'appui de la MONUSCO. Julien Paluku dans ses propos recueillis par Gisèle Cage.
La situation de Rutshuru est une situation que nous suivons de très près. Nous y avons dépêché d'ailleurs avec l'appui de la MONUSCO, le Baraza intercommunautaire, pour devoir organiser un dialogue social. Ce dialogue aura pour objectif de faire asseoir les deux communautés pour qu'on se parle, pour qu'on fasse un diagnostic total de la situation du groupement Binza, qu'on évoque les problèmes tels qu'ils sont relevés par les uns et les autres, et à l'issue de ce dialogue, on va devoir définir ensemble une thérapie, peut-être des chocs, pour affronter les grandes questions qui se posent dans les territoires de Rutshuru et particulièrement dans Made Binza. Donc je ne peux pas, à l'heure qu'il est déjà donné les mobiles pour lesquels les Hutu ou les Nande se tiraillent en territoire de Rutshuru, mais c'est à l'issue du dialogue où les uns et les autres vont s'exprimer. L'expression des uns et des autres va nous permettre d'identifier réellement où se situe le problème. Et c'est quand nous aurons identifié où se situe le problème que nous pourrions maintenant envisager la thérapeutique appropriée à chaque problème tel qu'identifié.
Des sources de la MONUSCO nous apprenant que ce dialogue social a été lancé hier à Binza. Direction le Sud Kivu, une dizaine d'agences de fret aériens ont déclenché un mouvement de grève depuis hier mercredi. Les responsables de ces agences contestent une taxe qui, selon eux, a été supprimée par le ministre terre du transport du gouvernement, mais qui continue à être perçue par la direction provinciale de mobilisation et de l'encadrement des recettes des PMR. Cette grève constitue un manque à gagner non seulement pour les opérateurs économiques, mais également pour les populations des territoires desservis par ces agences qui s'approvisionnent grâce à elles en produits de première nécessité. Explication avec Astrid Mujinga.
Selon l'agent chargé de la réglementation et de la normalisation à l'aéroport de Kavumu, tous les propriétaires des agences de fret, une dizaine au total, ne se sont pas présentés depuis hier mercredi à l'aéroport de Kavumu. Ils veulent, par cette grève, montrer leur mécontentement à propos d'une taxe qui, selon cet agent, est légalement établie par ordonnance loi, la taxe sur fret aérien et passager qui demande 5 dollars par passager et 0,05 dollars par kilo de marchandises ou de n'importe quel colis. Les opérateurs économiques disent de leur côté s'insurger contre cette taxe et d'autres encore qui constituent une surtaxation car cette taxe sur fret aérien et passager, selon eux, avait été supprimée par le ministère des tutelles et ils disent vouloir continuer cette grève jusqu'au moment où une solution sera trouvée. Signalons qu'au même moment, une autre grève est signalée, celle des transporteurs routiers de l'axe Bukavu-Kampala en Ouganda. Et c'est pour le même motif, la multiplicité des taxes. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Parlons des conditions de traversée entre la RDC et le Congo-Brazzaville qui se durcissent de plus en plus et ce, 6 mois après la rencontre en juin dernier entre les experts de la RDC et du Congo-Brazzaville. Une rencontre qui devrait, pour les usagers et autres commerçants, décrisper la situation et la ramener à l'avant-expulsion dont ont été victimes les Congolais de la RDC. Mais jusque-là, ce début décembre, les habitants des deux capitales les plus proches de la planète sont soumis à beaucoup de gymnastique pour traverser le fleuve Congo, une situation qui n'est pas sans conséquences et pour les usagers et pour l'économie des deux pays. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Les urgences et autres cas d'extrême importance n'ont plus droit de cité pour les traversées entre Kinshasa et Brazzaville. Les conditions exigées ne facilitent plus la tâche. Une Brazzavilloise présente à Kinshasa en a marre.
C'est pas facile. Au cas où il y a visite, où il y a un cas de maladie, où ça te demande une urgence, ça prend du temps.
Eh bien le temps, encore le temps. Pour les Kinois, il faut 72 heures pour avoir la réponse une fois les passeports déposés au service consulaire du Congo-Brazzaville ici à Kinshasa. Mais tenez, ce passeport ne peut être déposé sans un certificat d'hébergement dûment établi par les services appropriés installés plutôt à Brazzaville. Donc, qu'il faille en amont envoyer la photocopie de son passeport à Brazzaville pour acquérir le certificat d'hébergement. Sinon,
il n'y a pas moyen de voyager. On tient à ça. Les papiers d'hébergement, les passeports, plus l'argent.
Tout cela ne facilite pas les échanges commerciaux. Les fréquentations au beach Ngobila sont de plus en plus timides. Le bateau MBI Kanda est aux arrêts, faute de clients. Si avec le laissez-passer, plus de 5000 personnes traversaient le fleuve par jour, aujourd'hui, il est difficile de compter plus de 100 personnes par jour. Conséquence, les économies des pays en souffrent.
L'ONG allemande Transparency International a publié hier mercredi son classement annuel des pays où règne la corruption. La RDC occupe la 154e place sur 174 pays. Pour l'année 2014, l'organisation indique que le Soudan, la Corée du Nord et la Somalie sont les pays perçus comme les plus corrompus au monde, tandis que le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande sont considérés comme les plus vertueux. Lucas Olo Fernandez, coordonnateur régional africain centrale de cette ONG, explique la forme de la corruption qu'entretient la RDC. Il est joint par Askin Zegbia.
En ce qui concerne l'RDC, il n'y a pas eu de grands changements depuis l'année passée. On peut dire que l'année passée, il y avait eu un petit développement positif. Mais maintenant, ce qu'ils disent montre cette année que l'RDC reste dans la même position. En fait, les problèmes de corruption sont liés aux affaires industrielles extractives ou peut-être les secteurs publics au niveau des travaux publics, selon ce qu'on peut voir en faisant une analyse du contexte. C'est vrai que l'RDC est un pays membre déjà de l'initiative des industries actives. Ce qui est un bon signe pour le moment, serait mieux que le gouvernement fasse plus d'efforts en termes de transparence dans ce secteur pour montrer de vrais changements au niveau du pays.
Sachez que pour établir son indice, Transparence internationale rassemble des avis d'experts au sein d'organisations telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Fondation allemande Bertelsmann. Exécution difficile du budget provincial du Kassai occidental au premier semestre 2014. Ceci ressort du rapport donné hier par le gouverneur de province à l'Assemblée provinciale lors de la présentation du budget pour 2015. Alex Okande Mupompa s'inquiète au sujet de la plupart des projets d'investissement dans le domaine de la construction ou de réhabilitation. Selon lui, ces projets inscrits au programme n'ont pas connu un début de réalisation. Alex Okande Mupompa évoque les raisons à la base de cette situation. Ses propos sont recueillis par Francis Ikalunga de la radio Dikoudieto.
Il y a lieu de noter la recrudescence d'une très forte insécurité qui a secoué les villes de Kananga et Chikapa tout au long du premier semestre 2014. La persistance des conflits de pouvoirs coutumiers et des limites de terre dans la quasi-totalité des territoires de la province. La faible capacité de mobilisation des recettes par la DGRCOP. Je tiens à faire remarquer que la non-application des dispositions du protocole d'accord relatif aux modalités de consommation des crédits d'investissement dans les secteurs à compétences exclusives des provinces n'a pas permis au gouvernement provincial d'exécuter tous les investissements prévus à son programme d'action au cours du premier semestre 2014.
Le président de l'Assemblée provinciale recommande la révision des différents projets. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Okapi.